Avant de plonger dans votre prochain épisode de Course Épique, je voulais vous parler de l'Odyssée ASPTT, le podcast qui retrace une épopée sportive de 125 ans. Le mouvement ASPTT propose une multitude d'activités sportives pour tout niveau, du débutant au confirmé, dans toute la France. J'ai particulièrement aimé dans ce podcast l'alternance entre les anecdotes historiques sur de nombreuses disciplines sportives et les témoignages en immersion des adhérents de l'association. C'est à la fois rythmé, vivant et instructif. Avec ce podcast, vous allez vous plonger dans l'odyssée de cette association, véritable pionnière dans la démocratisation du sport en France. Et puis les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT mettent en lumière ce qu'il y a de plus essentiel dans le sport selon moi. Les notions d'égalité, de solidarité, d'inclusion et d'accessibilité. Et dont la course à pied est d'ailleurs une très belle expression, vous êtes bien placé pour le savoir. Vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire. Faites comme moi, courez découvrir les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT sur votre plateforme d'écoute favorite.
Voir du monde, ça m'a fait du bien. Et en fait, c'est justement au boulot où ma collègue de l'époque, Mylène, en fait, me dit que ça me ferait du bien de faire un peu de sport avec ceux qui sont justement dans la même entreprise, entre midi et deux, tout ça. Et l'idée, en fait, de refaire du sport revient en moi pour... parce que j'ai envie d'évacuer tout ça. Et le plus simple, c'est vraiment d'aller courir, parce qu'il faut juste une paire de baskets. Et surtout, quand je suis chez moi, en fait, j'ai quand même des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit. Et un matin où j'ai pas le sommeil, je prends les baskets, je vais courir dans mon petit village, et ça me fait du bien. Et je rentre, et en fait, du coup, j'ai faim. Je me remets un peu à grignoter, tout ça. Et finalement, c'est ce qui va me redonner vraiment le goût à la vie, quoi.
Bonjour à tous. Je suis Guillaume Lalu, et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Laurie Fay. J'avais envie de recevoir Laurie depuis très longtemps dans le podcast après être tombée il y a quelques mois sur des articles qui relataient son parcours de vie. L'occasion se présente enfin aujourd'hui de l'accueillir dans Course Épique. Laurie a connu le haut niveau en tennis de table dans ses jeunes années avant de raccrocher pour se consacrer à ses études. Un drame personnel va ensuite renverser sa vie un jour de 2013 avec la perte à la naissance de sa fille. Assommée par la stupéfaction, la peine, la douleur, Laurie se lance alors dans la course à pied en espérant que les douleurs du corps lui feront oublier les douleurs du cœur. Elle s'engage alors progressivement dans la discipline, par nécessité. À la suite de sa rencontre avec Ludovic Collet, célèbre speaker et entraîneur, un rêve s'offre à Laurie. Partir pour la première fois au Cambodge, sur les traces de son père qui a fui les Khmers Rouges à la fin des années 70, après avoir été fait prisonnier pendant 3 ans. Laurie va partager avec nous aujourd'hui sa première course en terre cambodgienne en 2017, qui marquera aussi le point de départ d'un rêve olympique un peu fou. L'histoire de Laurie, c'est l'histoire puissante d'une reconstruction. Un modèle de résilience. Mais je ne vous en dis pas plus. Laurie va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique. Avancez. Bonjour Laurie, je suis ravi de te recevoir dans ce 106e épisode de Course Épique. Comment ça va ?
Eh bien, ça va bien. Salut à toi, Guillaume. Je suis à Briançon, au soleil. Enfin, en intérieur, mais derrière le soleil.
Donc... N'essaye pas de me narguer. Pour une fois, il fait beau à Paris aussi.
Ouais.
Ça ne marche pas,
ouais.
Exceptionnellement. Ouais. Ça va, franchement, c'est pas mal. Pour une fois, on s'en sort bien. Ouais. Laurie, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, tu t'es blessée au tendon tout récemment, la fin janvier, à l'occasion du Snow Trail de Serre Chevalier. Donc là, tu es un peu assignée à résidence. Est-ce que tu en as profité pour casser ta télé en regardant Alexis Peintureau devenir champion du monde de combiné à Courchevel avant-hier?
Alors, j'ai vu Alexis Peintureau. Hier, j'ai regardé les filles. Il y avait aussi du biathlon. Et là...
Médaille de bronze en mixte,
médaille de bronze en relais mixte. Et là, qu'on discute, il y a quand même le Super G homme qui a débuté, quoi. Hein. Donc,
Tu veux qu'on annule l'enregistrement? On reporte.
Non, c'est pas grave. Oui, je suis le ski, un sport que je ne vais pas pouvoir pratiquer pendant tout cet hiver. Mais bon, ce sera pour l'hiver prochain.
Plus sérieusement, est-ce que ça va, le moral tient? C'est quoi les perspectives et la durée de convalescence que tu imagines? C'est une blessure que tu connais, que tu as déjà connue il y a 18 ans, je crois. Donc voilà, tu l'as domestiqué à peu près. C'est quoi les perspectives pour toi? Et puis est-ce que surtout tu l'acceptes avec sérénité?
Oui, ben écoute, voilà, ça fait partie des choses qui arrivent dans la vie, qui sont pas calculées. Donc là, j'avais un tendon au niveau du quadriceps droit qui était déjà opéré il y a 18 ans quand je jouais au tennis de table à l'époque, qui s'était bien abîmé. Et là, sur une course, voilà, sur une chute, il s'est encore déchiré, mais il s'est même, on va dire, arraché à la base. Donc, il a fallu opérer rapidement. Et c'est un mois, c'est vraiment ça le plus embêtant, hein, un mois sans poser le pied en gardant la jambe tendue. Donc on voit ces petits muscles qu'on a mis des années à développer fondre comme neige au soleil. Et après, ça va être des longs mois de rééducation pour retrouver un peu la flexion et la musculature. Et ça nous donne à peu près une petite année de convalescence, quoi. J'espère reprendre à mon niveau d'avant
blessure. À l'automne.
Automne, Noël. Ce sera le cadeau de Noël, quoi. Voilà.
On te le souhaite. Laurie, avant qu'on rentre plus particulièrement dans ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Petit bémol, tu ne peux pas parler de sport.
Sans
tu nous as déjà donné un indice sur Briançon. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire de toi, de ce que tu veux bien nous dire de toi, sans parler de sport, pour que nos auditeurs en apprennent un peu plus sur qui tu es?
Alors, j'ai 36 ans. J'ai un petit garçon, Antoine, qui est en CM2. Donc, je vis à Briançon depuis 2 ans et demi. Trois ans. Je suis originaire de Montpellier. J'ai vécu à Paris, donc quand tu me parles de la météo, je la connais, hein, c'est pas la peine.
Tu connais, ouais.
Je
peux pas bluffer.
Non, tu peux pas. J'ai un grand frère et une grande sœur, donc je suis la petite dernière. Mes parents sont toujours à côté de Montpellier. Mon père est cambodgien. Il est né au Cambodge et il est arrivé en France en 1978 et a rencontré ma mère qui est française. Donc voilà, 50% de chaque. Qu'est-ce que je peux dire? Je travaille, alors bon, actuellement je suis en arrêt, mais j'ai travaillé longtemps dans les ressources humaines puisque j'ai un master en droit spécialisé dans les ressources humaines. Mais cet hiver, je travaillais comme assistante médicale dans un cabinet au pied des pistes de Montgenèvre où il y avait pas mal de blessés. Et en plus, à chaque fois, j'étais là, oh là là, quand je vois les blessés qui arrivaient, je me disais, je vais pas faire de ski, c'est une cata. Et moi, je suis allée me péter un tendon en courant, donc j'ai peut-être dû faire du ski.
Ma pauvre.
Non, que te dire.
Une passion secrète, peut-être, inavouable ou avouable? Tu collectionnes pas des timbres, t'es pas fan de cinéma japonais?
Non, non, les baskets, d'accord. J'adore les baskets. Mais bon, j'ai pas le droit d'en parler. Après...
Franchement, t'as bien réussi. C'est très rare. Les invités, en général, je leur dis ça, ils commencent la première phrase tout de suite en parlant de sport.
Ouais.
Donc, je trouve que tu as bien tenu
j'adore rigoler. Je pense que c'est mon credo. Ça, c'est...
Grande qualité.
Ouais, essayer de...
J'espère qu'on va se marrer aujourd'hui. J'ai quelques petites vannes pour toi,
cool.
Au détour de nos échanges. On va se plonger plus particulièrement dans l'histoire de ta famille qui est assez, assez centrale dans les discussions qu'on va avoir aujourd'hui, et notamment celle de ton papa. Tu expliquais qu'il était cambodgien. Il a été emprisonné pendant 3 ans par les Khmers Rouges. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de son histoire? Parce que c'est un sujet qui forcément a un impact aussi sur ta propre destinée.
Oui, alors en fait, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a appris très tard, puisque mon père a mis du temps à en parler. Il a déjà mis 25 ans avant de retourner au Cambodge. En fait, il est arrivé en France, il avait 25 ans et il y est retourné pour ses 50 ans. Et c'était un soir, un dîner avec un ami à lui qui était aussi réfugié, qu'ils avaient un petit peu bu et qu'ils en ont parlé de cette fuite où, en gros, pendant entre 75 et 78, il était prisonnier dans des camps et que, en fait, il avait entendu des soldats parler d'une extermination le lendemain. Donc, il s'est dit, il faut que je m'en aille. Et pendant un mois, je sais qu'il a essayé tant bien que mal de rejoindre la Thaïlande, où grâce à des organisations humanitaires, il a pu Il a pu partir, donc il y avait le choix entre les États-Unis.
Il s'était fait capturer non, pendant sa fuite, c'est ça?
Ouais.
Il avait été capturé, assommé, laissé pour mort, c'est ça?
Exactement.
Si j'ai bien suivi.
En fait, donc il était en gros, ils étaient esclaves, ils devaient cultiver les rizières, tout ça, travailler pour les soldats, et donc voilà, ils avaient des chaînes, ils pouvaient pas s'enfuir, donc voilà, de savoir que mon père avait pas la possibilité de courir, c'est, enfin voilà, quand aujourd'hui moi je fais de la course à pied, ça résonne quand même avec pas mal d'émotions. Mais ouais, il s'est à un moment donné où il a voulu s'enfuir, il s'était fait rattraper, il avait pris un coup de machette dans la nuque, mais pas assez profond, donc en fait juste assommé, on va dire. Et il s'est levé, il a vu qu'il n'y avait plus rien autour, et voilà, c'est de là qu'a commencé sa fuite, qui a duré un mois. Donc bon, on n'a pas tous les détails.
Donc tu disais jusqu'en Thaïlande.
Ouais. C'est un peu ce qu'il a raconté avec beaucoup d'émotion pour justement le film que tu as vu récemment. Donc voilà, des histoires.
Est-ce que c'est un sujet qui était, enfin, dont tu ignorais totalement l'existence, ou tu savais qu'il avait eu ce passage dramatique dans sa vie, mais tu n'avais jamais osé évoquer le sujet avec lui, ou lui t'avait fait sentir que ce n'était pas un terrain de discussion sur lequel il était prêt à aller? Ou est-ce que tu ignorais complètement tout ça de son histoire?
Alors non, je savais qu'il s'était enfui pendant la guerre, mais vraiment, je te dis, cette phrase, c'est la seule chose que je savais, quoi. C'était souvent mon papa, il s'est enfui pendant la guerre, c'est pour ça qu'il est arrivé en France, et que voilà, et que mon papa est cambodgien, et que mes potes avaient voilà, enfin eux ils étaient français, j'ai dit ben moi mon papa il est arrivé là parce qu'il s'est enfui de la guerre. Mais après non, il parlait très peu. Alors même encore aujourd'hui hein, c'est pas un grand bavard, donc on comprend hein, quand on sait ce qu'il a vécu. Mais il a fait,
on voit dans le film d'ailleurs un moment émouvant où il arrive à l'évoquer même très brièvement, l'émotion que ça suscite encore.
Ouais, et puis finalement ça lui a fait du bien d'en parler. C'est vrai que ça fait partie de ces générations qui veulent pas forcément consulter, en parler, parce que avant c'était pas aussi accessible, voilà. Et mon père il a longtemps gardé tout ça, et pour le film ça a vraiment été pour lui une libération, je pense, d'en parler. Quand voilà, Andy filme cette séquence où Ludo lui demande s'il a envie de parler, voilà, mon père a tout livré, et ouais, c'était quelque chose.
Juste pour donner un peu de contexte aux auditeurs, donc le film dont on parle, c'est Au-delà du temps, qui est disponible sur des plateformes. Je mettrai un lien dans la description de l'épisode. Et il a donc été réalisé par Andy Collet, qui est le frère de Ludovic Collet.
Exactement.
Le Ludo dont tu parles, c'est Ludovic, voilà. Collet, qui est le célèbre speaker et accessoirement entraîneur,
voilà,
dont on va pouvoir parler un petit peu plus tard. Mais voilà, c'était juste pour mettre un peu en contexte. Laurie, on a parlé de balles rondes, de balles blanches il y a quelques minutes. Est-ce que tu peux nous parler de la place du sport dans ta jeunesse, et surtout sa raison d'être? Est-ce que c'était pour toi un moyen de, avant tout, t'évader de la maison? Est-ce que c'était aussi un refuge?
Alors, c'est vrai que voilà, maintenant que j'ai le droit de parler de sport, je vais en profiter. Hein. Donc, ouais, ça a toujours fait partie de ma vie, dans le sens où j'étais un petit garçon manqué, que j'adorais, voilà, avec mon frère, on se chamaillait, hein, comme tous les frères et sœurs, mais il a 3 ans de plus, et en fait, j'ai toujours essayé de faire un peu comme lui. Il avait fait du tennis, il avait fait de la natation, et puis on jouait au foot dans le quartier. Donc, un jour, mon père avait acheté une table à la maison, il jouait beaucoup avec mon frère, et puis je me suis mise à jouer. Alors quand ils jouaient ensemble, moi je tapais la balle partout où je pouvais, je jonglais, donc c'est pour ça que j'ai quand même développé pas mal d'habiletés assez rapidement. Et puis il s'est inscrit en club, en l'accompagnant, l'entraîneur m'a dit « est-ce que tu veux t'y mettre toi aussi ?» Donc j'avais que 6 ans et demi, 7 ans, donc la banane, comme ça j'ai regardé ma maman qui m'a dit « bah oui, si tu veux ». Et voilà, je me suis tout de suite pris à ce jeu. J'ai eu des résultats assez rapidement. Et c'est vrai que...
Toi, tu jouais vraiment la gagne déjà très tôt, contrairement à ton frère, de ce que j'ai compris, qui était lui plutôt sur le plaisir du sport. Toi, t'étais pas là du tout pour plaisanter.
Eh ben, mon frère, lui, assez doué dans tout plein de sports, avait, je pense, moins cet esprit, ouais, de gagne. Et moi, c'était mon grand frère. Donc, c'était, voilà, il aimait bien m'embêter. Et si je pouvais le battre, du coup, c'était un moyen pour moi d'exister. Et puis après, comme tu dis, j'avais quand même une éducation assez stricte. Et partir en week-end sur des compétitions ou une semaine en stage avec les copains, c'était quand même assez sympa. Donc voilà, c'était un moyen pour moi d'aller m'éclater en dehors, et puis une vraie passion, quoi. De toute façon, si tu aimes pas un sport comme ça, tu peux pas en faire autant d'heures par jour. Donc ouais, j'ai vraiment accroché avec ce sport. Donc voilà, c'est parti comme ça.
Tu as franchi les échelons aussi, aller au plus haut niveau national et international, en junior et puis jusqu'à tes 21 ans. C'était très accomplissant pour toi. Enfin, c'était passionnel, ta relation avec le tennis de table à ce moment-là. Tu vivais que pour ça?
Ah, je vivais en tout cas beaucoup pour ça. Oui, c'était vraiment... Je parlais que de ça. Donc, j'étais en sport-études d'abord au Krebs de Montpellier pendant 2 ans. Et puis après, je suis partie à l'INSEP à Paris pendant 7 ans. Donc, c'était jour et nuit, ping-pong, entraînement 4 à 5 heures par jour, les compétitions. En plus, tu vois, c'est un peu comme le tennis. Tu as des Open un peu partout dans le monde où il faut participer au maximum pour avoir des bons classements et, voilà, et des bons tirages au sort sur les grosses compétitions. Donc, c'était vraiment à fond. Et voilà, je pensais qu'à ça...
On peut parler quand même des titres que tu as eus. T'as quand même performé à très haut niveau. T'as participé à des championnats d'Europe, championnats du monde. T'as été 3e française, si
voilà.
Je dis pas de bêtises.
Mon meilleur classement, ça a été numéro 3 française. Mon meilleur classement mondial, donc il était quand même assez éloigné. C'était autour de la 150e place. Après, j'ai déjà réussi des performances sur une joueuse qui était numéro 30 mondiale. C'était une de mes meilleures performances. Mais... voilà. Après, il y a quand même encore un step pour atteindre le très haut niveau. Donc, c'est un sport qui est largement dominé par les Asiatiques, notamment par les Chinois et Chinoises. Et voilà, il manquait encore quelque chose pour être parmi les toutes meilleures. Mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu.
T'as fait ton bout de chemin.
Ouais.
Qu'est-ce qui a guidé ton choix d'arrêter à 21 ans? Est-ce que ça a été une décision qui a été très apaisée et sereine ou qui a été... contrarié par la réalité d'autres choses, des envies d'études, de travail? Comment est-ce que tu as vécu ce moment où tu as débranché la prise?
Il y a eu cette blessure, donc toujours ce tendon dont on parle actuellement. En fait, non, là, c'est là que ça a commencé sur une année très chargée où il a beaucoup tiré. Donc j'alerte sur les gens qui ont des tendinites. Parfois, prenez le temps de soigner votre tendon parce que même si un jour on l'opère, il reste toujours fragile. Il y a eu cette opération qui m'a permis de prendre un peu de recul. Donc ça, c'était à 19 ans, assez tôt, sur la situation, quoi, de se dire que quand même, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter assez rapidement. Et ça m'a pris 10 mois avant de pouvoir revenir. Un sport qui n'est pas professionnel à 100%. Moi, à l'époque, quand j'étais en équipe de France, je gagnais l'équivalent d'un SMIC, puisque j'étais salariée dans mon club. Donc, c'est bien, mais en même temps, quand ça s'arrête, il n'y a plus rien. Et donc, j'étais en train de faire mes études. Et puis, à cette époque-là, on avait donc une Chinoise naturalisée en équipe de France. Et une deuxième Chinoise allait se faire naturaliser. Donc, c'était beaucoup de choses qui arrivaient dans ma vie qui m'ont fait me poser certaines questions. Et... finalement, j'ai préféré me consacrer à mes études, continuer à jouer un peu, mais mettre un terme à ma carrière internationale. J'avais fait des championnats d'Europe, des championnats du monde. J'avais pas réussi à me qualifier pour les Jeux. Donc, c'était un peu avant Pékin. Donc, j'ai pris la décision de lever le pied et puis sans regret, j'ai...
Et posé la raquette.
Ouais, j'ai posé la raquette. Bon, j'y joue encore un petit peu pour impressionner les potes. Mais voilà.
Et je t'ai vu faire du ping-pong avec Antoine, avec ton fils, dans Au-delà du temps.
Oui, un petit peu.
Non, enfin, on suppose que c'est lui. Je crois que c'est lui.
Attends,
toi qu'on voit à l'écran.
Non,
mais
je suis avec mon filleul. Je suis avec mon neveu.
Avec ton filleul, d'accord.
Oui, okay. Mon fils, il fait de la boxe avec ses cousins dans cette séquence.
Ah oui.
Voilà.
D'où le visuel avec les grandes boxes qu'on
exactement.
Trouve aussi dans Au-delà du temps.
Ouais.
On est en train de spoiler tout le documentaire
non, ça va.
Que je vous invite vraiment, vraiment à aller voir. Laurie, la course à pied, à ce moment-là, c'est complètement à des années-lumière de ton intérêt. C'est carrément un rejet. Tu trouves ça inintéressant ou tu l'envisages même pas et tu es pleinement dans ta pratique de tennis de table?
Eh bien, en fait, oui, à cette époque-là, ça, par la force des choses, je suis obligée de faire un peu de fractionner dans notre prépa physique autour d'un stade à l'INSEP. Mais je trouve ça...
J'ai entendu le mot obligé. Je
ouais,
vois bien dans quel état d'esprit tu étais.
Ouais. Je trouve ça hyper chiant, quoi. En début de saison, faire un test Cooper ou tout ça, c'était... voilà, c'était pas le calvaire, mais on préfère jouer. J'étais sur un sport assez ludique de duel. Donc, courir, bon, c'était pas ce qu'il y avait de plus rigolo. Donc, non, c'est vraiment juste une obligation ou une activité que j'avais fait dans ma rééducation aussi à l'époque. Mais non, c'est pas quelque chose que j'envisage comme une reconversion sportive. Pas du tout à cette époque-là.
Laurie, on va parler maintenant un peu plus de ta vie personnelle. On va faire un petit bond en avant dans le temps. Donc, tu es devenue maman pour la première fois à 25 ans avec la naissance de Antoine en 2011. Voilà, ce petit bonhomme dont on a déjà beaucoup parlé.
En 2012, il est né.
2012, pardon, oui, excuse-moi. Non, 2012, excuse-moi. Tu connais 2 ans plus tard un drame avec la perte de ta fille Sarah à l'accouchement, qui est une source évidemment de sidération, de peine, d'infinie douleur, j'imagine, et probablement de colère aussi, un sentiment d'injustice très fort. Ça a été quoi les piliers de ta reconstruction? Et puis voilà, comment est-ce qu'on fait front et on retrouve l'envie et un semblant d'élan? C'est au bout de combien de temps on est en capacité de reposer ces premières briques, sans évidemment oublier, mais en tout cas de retrouver une capacité à se projeter. Et puis, comment toi, tu as bâti cette reconstruction, cette lente reconstruction?
Effectivement, quand voilà, il t'arrive ce genre de tragédie, le premier jour, t'es comme un zombie, tu te demandes ce qui s'est passé, t'es triste, t'es en colère, il y a tout plein de choses qui se passent en toi. Et ce qui est en fait déjà fou au départ, c'est que ma maman, qui habite donc à côté de Montpellier, moi j'étais en Aveyron avec le papa d'Antoine à cette époque-là, c'était la fin de la grossesse, donc elle m'avait dit « je viens te voir, comme ça je vais t'aider à préparer la maison pour l'arrivée de la petite ». Donc en fait, ma mère arrive la veille du jour où ça se passe. Et donc voilà, je perds Sarah à l'accouchement, je rentre à la maison, ma mère est là, et elle appelle mon père pour lui expliquer la situation, et mon père tout de suite, avec qui je suis pas forcément proche, hein, qui dit « elle rentre à la maison, elle va venir se reposer un petit peu, tout ça ». Donc je rentre avec ma mère chez mes parents, je passe 3 jours très difficiles, et avec Antoine aussi, où je pleure beaucoup, mais ma mère me dit « il faut que tu en parles à Antoine pour qu'il comprenne, même si, bon, il a qu'un an à ce moment-là, mais voilà, avec même s'il parle pas avec tes mots, faut que tu lui expliques la situation et ça va te faire du bien ». Et en fait, après 3 jours vraiment de néant, je me dis « mais je vais pas passer ma vie à pleurer comme ça, c'est pas possible, il faut que j'avance ». Ce mot-là qui d'ailleurs va être toute ma vie, quand ça va pas, je me dis toujours il faut avancer. Et je décide de reprendre le boulot assez rapidement. Alors pareil, c'est pas facile parce que je retourne au boulot et forcément des collègues qui sont pas au courant et qui me disent bah c'est fou, t'as pas grossi, tout ça machin, donc va leur expliquer encore, voilà, t'es obligé de passer par là. Mais
tu as pu reprendre au bout de combien de temps? Quand tu dis rapidement, c'est on parle de quelques jours?
Eh ben ouais, on parle de 2 semaines à peu près. Je reprends, même pas 10 jours, je pense. Je vais un peu chez mes parents, je rentre en Aveyron et puis je reprends le boulot.
Et t'as tout de suite vu les bénéfices à cette reconnexion sociale? Ça t'a très vite, tu t'es dit que c'était une bonne chose?
Complètement, complètement. De voir du monde, ça m'a fait du bien. Et en fait, c'est justement au boulot où ma collègue de l'époque, Mylène, en fait me dit... Que ça me ferait du bien de faire un peu de sport avec ceux qui sont justement dans la même entreprise, entre midi et deux, tout ça. Et l'idée, en fait, de refaire du sport, revient en moi parce que j'ai envie d'évacuer tout ça. Et le plus simple, c'est vraiment d'aller courir, parce qu'il faut juste une paire de baskets. Et surtout, quand je suis chez moi, en fait, j'ai quand même des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit. Et un matin où j'ai pas le sommeil, je prends les baskets, je vais courir dans mon petit village et ça me fait du bien. Et je rentre et en fait, du coup, j'ai faim. Je me remets un peu à grignoter, tout ça. Et finalement, c'est ce qui va me redonner vraiment le goût à la vie, quoi. C'est, ça paraît tout bête, mais c'est ces premiers.
T'as un souvenir
footings,
de ce premier run, de ce premier footing, justement? Est-ce que t'as encore des émotions que tu peux lier à ce moment-là?
Ouais.
Ou est-ce que c'est confus?
Non, je me rappelle, il y en a deux que dont je me rappelle. Le tout premier, en fait, il fait en Aveyron, c'est quand même assez vallonné. C'est pas des grosses montagnes, hein, mais c'est quand même vallonné. Et en fait, je me souviens que je pars, je commence à courir et ça monte. Et en fait, très rapidement, je me mets à marcher Et dans ma tête, je me dis, putain, mais même ça, c'est dur, quoi. De reprendre la course à pied dès que ça monte. Et alors, c'est marrant parce qu'au début, tu progresses assez vite. Donc, je me rappelle que les fois d'après, j'arrive à courir un petit peu plus longtemps avant de marcher. Et c'était un peu déjà un premier défi que je me mettais. C'était de tenir le plus longtemps en courant dans cette montée. Et puis, un autre endroit, c'était un stade, en fait, qu'il y avait à côté de la maison dans ce village. Donc, un stade, c'était en terre, hein, c'était pas un beau stade d'athlée. Mais il faisait assez froid, assez moche, et je tournais autour du stade parce que j'avais un peu peur, parce que c'était tôt le matin. J'avais pris.
Oui, t'as peur du noir, c'est ça?
Et en fait, ouais, j'avais peur de m'éloigner. Donc, je m'étais dit, bon, je vais rester autour du stade. Mais en fait, je me disais, qu'est-ce que c'est chiant de tourner en rond. Mais ça me faisait du bien. Donc, voilà, c'est des souvenirs de ces premiers footings que j'ai faits qui me faisaient déjà reprendre un peu goût. Voilà, déjà me ressentir un petit peu vivante, quoi, on va dire.
Ouais, j'ai lu le mot de nécessité presque.
Ben oui, après, voilà, se morfondre, c'est pas la solution. Il faut quand même passer par là, je pense, pour voilà, que un peu tout se remette en place dans la tête. Et puis après, partir dehors, enfin on le dit, hein, que ce soit la course à pied ou autre chose, mais ouais, un moyen de s'évader, de penser à plein d'autres choses et ouais, de reprendre voilà, un équilibre, comme je dis, quoi, de vie, mais un équilibre physique et mental. C'est voilà, moi c'est la course à pied qui m'a permis de retrouver ça.
Donc, est-ce que tu t'es très vite dit qu'elle pourrait s'inscrire durablement dans ta vie, en fait, qu'elle était là, elle était là, cette étape de ta vie importante, mais que tu trouvais beaucoup de plaisir et l'énergie que tu trouvais dans cette pratique, et plus particulièrement le trail, est-ce que tu t'es dit que c'était finalement un projet au long cours qui allait prendre de la place dans ta vie de façon durable?
Oui, parce que, donc, comme je te dis, ne serait-ce que retrouver l'appétit, parce que voilà, je me dépensais physiquement. Retrouver le sommeil, parce que j'étais fatiguée, donc je dormais un petit peu plus. Et en fait, au boulot, c'est un collègue qui faisait du trail, qui m'a dit, ça a été mon premier dossard, qui m'a dit, à côté de Rodez, c'était à Sévrac, exactement, il y avait le Tripou Trail, qui existe peut-être encore, puisque les tripous, c'est les spécialités d'Aveyron.
Et je connais les ripoux, mais c'est un film.
Oui, c'est un film. Non, les tripoux, c'est des tripes, hein, donc faut. Mm-hmm. Ouais, c'est assez fort.
Et est-ce qu'ils en donnent au ravito ou pas?
Eh ben oui, il y en avait justement. C'était le concept. Bon, moi j'en ai pas pris.
Okay.
Et j'arrive sur cette course, donc je fais toutes les erreurs qu'un débutant peut faire. C'est-à-dire que je me rappelle qu'il faut manger des pâtes avant. Tu vois, avant une grosse activité, sauf que c'est un peu la dèche à la maison et je mange une pasta box 1h30 avant. Donc, je l'avais encore sur l'estomac. Et c'était un 11 km et je pars à pleine balle. Donc, forcément, au bout d'un kilomètre, j'étais KO. Mais moi, les dernières courses que j'avais faites, donc, bon, comme je te disais, dans le cadre de ma prépa physique, il y avait des années avant, je courais un peu, mais oui, ça devait être un cross au collège, quoi. J'avais pas refait de course depuis 20 ans, donc ouais, je pars à fond, mais en fait, j'arrive, je souffle, je bois un coup, je retrouve les copains, et en fait, je me dis, c'est génial, quoi. Je me suis dépouillée, c'est super, et du coup, voilà, ça part de là. Août 2013, le Tripou Trail, voilà.
ces envies performance, est-ce que c'est des choses qu'on n'oublie pas finalement, ton héritage et ton passé d'athlète de haut niveau, est-ce que c'est très présent et cette envie de compétition finalement, t'as envie de te réaliser dans ça à ce moment-là ou est-ce qu'il y avait une forme de lassitude aussi, peut-être hérité tes années à haut niveau en tennis de table, qu'est-ce que tu venais chercher dans tout ça et les courses que t'as pu ensuite explorer après et auxquelles t'as pu participer, est-ce que c'était... Cette dimension compétitive, elle était centrale ou est-ce que c'était avant tout du plaisir et puis certes du dépassement, mais pas une logique de performance ou d'ambition de performance particulière?
Eh ben, au début, ça ne l'était pas du tout. Comme tu dis, j'avais déjà vécu ça dans le tennis de table et c'est même quelque chose à la fin qui m'allait
plus. T'en voulais plus.
Ouais, j'avais voilà la gestion du stress, on le dit, hein, le sport de haut niveau, ça te l'apprend, mais quand même, j'avais vécu des dernières compétitions où j'avais la main qui tremblait, être dans un gymnase en face à face, tout ça, j'avais plus trop goût à ça. Et quand j'avais débuté donc la course à pied, je me disais, waouh, ouais, c'est génial, quoi. T'es au milieu de la foule, tu pars sur la course, tout le monde s'en fiche du résultat, tu vois, tu cours pour toi, ça te fait du bien, donc je trouvais ça super. Et finalement, comme on dit, hein, y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Je me suis retrouvée voilà, à remonter un peu au classement féminin au fur et à mesure des petites courses que je faisais. Je m'entraînais pas spécifiquement du tout. Je faisais des petits footings tôt le matin ou entre midi et deux. Et puis un jour, je fais troisième féminine sur une course. Et ouais, je me dis, oh bah c'est sympa. Donc pareil, je m'entraîne pas spécifiquement, mais je me dis, bon, je fais des petits footings, j'essaye de faire des cotes, du fractionné, je regarde un peu sur internet ce qu'ils disent. Voilà, et puis un jour, il y a cette fameuse rencontre avec Ludo qui va faire que je vais partir un peu plus dans la performance. Au rythme qu'il faut, enfin voilà, ça va se faire naturellement, mais voilà, ça a été
un hasard plutôt qu'un choix délibéré.
Ouais, après, comme tu dis, sûrement que je l'avais quand même au fond de moi, mais j'avais besoin de l'oublier quelque temps pour mieux le retrouver, ce chemin de la compétition. Toi, c'est hyper
Ludovic,
beau ce que tu dis.
Ouais, franchement, j'ai envie de l'encadrer et de le mettre au-dessus
ouais,
de mon lit.
C'est, ouais. C'est pas mal, c'était pas fait exprès.
On le garde pour la fin, le moto de la fin, attention. Laurie, Ludovic, de ce que j'ai compris, il a été séduit de façon assez antinomique peut-être, je ne sais pas, en tout cas, de deux aspects, à la fois ta grande détermination et une certaine forme de fragilité aussi. Il l'a dit de toi, et c'est des choses qu'on entend dans le documentaire, enfin dans le film, plusieurs fois que tu courais pour les mauvaises raisons. C'est quoi ton appréciation et le sens de cette phrase selon toi? Qu'est-ce que tu en comprends, toi?
Ouais,
est-ce que tu es en accord avec ça?
Oui, complètement. Bah, alors déjà, pour commencer, voilà, ça a été vraiment une rencontre qui a tout changé. Et comme tu dis, c'est voilà, nos personnalités déterminées mais fragiles se sont bien retrouvées. Mais que je courais pour les mauvaises raisons, oui, probablement, parce que je voulais me faire mal. C'était un peu me punir, peut-être, d'avoir perdu Sarah, et il y avait des moments j'avais sûrement voilà pas les bonnes motivations. C'était plus me faire mal que me faire du bien, donc c'était pas, voilà, quand on fait des choses, il faut les faire dans un but positif, on va dire, plus que négatif. Donc c'est là où il a été super pour m'accompagner à trouver le bon cheminement. Et comme je te disais, retrouver le chemin de la performance sans me forcer, et retrouver
retrouver le goût de la performance, finalement.
Ouais, exactement. C'est partout, il a su voilà, prendre le temps et maintenant que...
Et rallumer la flamme progressivement.
Ouais, maintenant quand je cours, voilà, c'est vraiment que du plaisir, quoi. Donc c'est ça qui est super.
Surtout s'il y a du tripou au ravito.
Non, mais ça, j'ai jamais aimé. Si, avec du vin rouge, ça passe.
Cette détermination que souligne Ludovic, t'as l'impression que tu avais des prédispositions pour ça, ça fait partie de toi, de ton tempérament depuis toujours, c'est inné finalement, ce mental très fort qui s'exprime notamment dans le sport.
Eh bien, inné, je ne sais pas. Alors oui, parce que c'est vrai que ma mère, elle m'a souvent dit, je ne sais pas d'où te viennent ces capacités dans le sport, parce que nous, on n'est pas du tout sportifs. C'est vrai que mes parents... Bon, c'est en mode loisir, mais c'est pas des grands sportifs, et mon frère et ma sœur pas plus que ça non plus, donc voilà, j'avais peut-être des prédispositions. Mais après, j'ai vécu ça dans le tennis de table. C'était l'année de mes 14-15 ans, c'était mes premières sélections en équipe de France des moins de 15 ans, où j'ai vraiment passé un cap à l'entraînement, où je faisais vraiment énormément d'efforts de travail, de renforcement, de technique, tout ça, et ça s'est senti dans les résultats. Et je me rappelle vraiment, hein, très bien, dans ma tête, je m'étais dit, punaise, quand on veut, on peut, quoi. C'est, le travail paye, ça met du temps, parce que ça faisait des années, hein, que je bossais, mais je commençais à ressentir les bénéfices de tout ça. Et en fait, voilà, dans la course à pied, je suis pas douée, j'ai pas une foulée académique, parce que ça a jamais été mon sport de prédilection, mais j'apprends, je m'entraîne, je fais comme il faut, avec les personnes qui m'entourent, hein, et qui m'aident. Mais voilà, j'ai écouté ses conseils, on, On a avancé comme on a pu et ça l'a fait. Je deviendrai jamais championne du monde, mais voilà, j'ai atteint des objectifs qui étaient atteignables au départ avec ce que je vis actuellement avec le Cambodge. Donc c'est super.
J'ai été frappé sur toutes les vidéos et les photos que j'ai pu voir de toi dans l'effort, en tout cas en course. Tu as tout le temps le sourire. Donc, option 1, c'est que tu fais comme tout le monde, nous tous. C'est-à-dire, dès qu'il y a le photographe, tu fais un sourire et puis dès que c'est terminé, on regalère et on refait la tête. Mais je crois pas que ce soit ça pour toi. Et dites quoi de ton état d'esprit sur une course, ce sourire que j'ai l'impression est constant?
Alors, c'est vrai que certaines personnes me le disent, hein, que j'ai souvent le sourire. Mais tu vois, depuis 2 ans, j'ai fait un peu de piste. Et franchement, autour d'une piste, tu rigoles moins. Sauf quand tu pètes. Écoute, ouais, je crois que à un moment donné, je me suis rendu compte du plaisir que c'était de faire un sport en extérieur. Cette sensation de liberté, un peu, hein, qu'on a, surtout voilà, pour moi qui était dans un gymnase pendant des années. Et puis, bon, voilà, j'ai eu cette blessure aussi qui m'avait arrêtée pendant pas mal de temps et qui m'empêchait de marcher, de courir. Donc, je sais que parfois, quand je vais pas bien, je me dis, mais attends, t'es en bonne santé, tu peux marcher, courir, c'est déjà un truc tout simple. Donc, voilà, souvent, ça me redonne le sourire. Et puis, cette discipline qu'est le trail, j'aime ce côté rencontre qu'il peut y avoir et partage entre, voilà, tu as sur la ligne de départ autant des professionnels que des purs amateurs, voire même des débutants. Et voilà, on ressent beaucoup de, bah, toujours pareil, de plaisir. Donc voilà, j'ai souvent la banane parce que, comme je dis aussi dans le film, on sait jamais ce qui va se passer et souvent il se passe quand même des choses assez rigolotes sur un week-end de trail. Donc. J'ai le sourire.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi, par rapport à toi, ta pratique du tennis de table, cette idée de confrontation qui est inexistante dans le trail? Enfin, en tout cas, ouais. C'est pas l'esprit, même quand on a des ambitions sportives, si on n'est pas contre l'autre, finalement, alors que là, c'était un duel et un mano à mano quand tu faisais du tennis de table. Est-ce que c'est pas, ça ne t'ouvre pas aussi une autre perspective de la pratique avec des ambitions de performance, mais vraiment dans un état d'esprit qui est radicalement différent de ce que tu connaissais? C'est peut-être été une grande respiration pour toi aussi, ça.
C'est vrai, j'aime ce côté, tu es juste en compétition avec toi-même finalement, parce que t'as tes capacités et tu vas essayer de te dépasser sur une course, mais voilà, si tu fais 3h15 en marathon, tu sais très bien qu'au départ tu vas pas partir sur 2h45, donc alors que sur un match de tennis de table, il peut y avoir un gros écart de niveau, et si tu perds tes moyens, si tactiquement tu te fais bloquer ou quoi, ça peut être hyper frustrant, tout ça. Alors que là, ouais, t'es là avec tes baskets et c'est toi qui vas avancer. Donc oui, ce côté de plus être en duel, en confrontation avec quelqu'un, c'est quand même, je sais pas, mais je suis plus détendue par rapport à ça, ouais.
Laurie, on va reparler de ta relation avec Ludo un peu plus tard, parce qu'elle est liée à toute l'histoire et à la course épique qu'on va partager ensemble aujourd'hui. Je voudrais juste que tu nous parles de l'équipe qui t'entoure aujourd'hui, de ton entraîneur. Et puis, il y a un projet vraiment chouette que tu as rejoint récemment avec Evadict, qui est une team trail 100% féminine. Est-ce que tu peux nous raconter les raisons de ce choix-là, et ce que toi, tu as envie d'apporter aussi au-delà de ce que cette équipe t'apporte, toi, de quelle façon tu as envie d'y contribuer. Voilà, je veux bien que tu nous donnes un petit panorama aujourd'hui de ton entourage et de ceux qui t'accompagnent dans ton développement sportif.
Alors en fait, donc en arrivant à Briançon, je me suis rapprochée du club de Serre Chevalier Briançon, qui donc a comme entraîneur Franck Charles, qui aujourd'hui m'accompagne individuellement et nous a aussi accompagnés au dernier mondiaux de trail avec le Cambodge. Donc voilà, quelqu'un qui est super, avec qui on a très bien accroché, qui m'entraîne donc vraiment spécifiquement, on va dire, pour voilà, l'athlétisme, la route et aussi pour le trail. Mais lui, à la base, c'est un pistard. Donc voilà, il aime bien cracher sur les trailers, mais en fait...
en fait, bon esprit, il aime ça. Bravo, Franck.
Il le sait pas vraiment, mais il aime ça. Enfin voilà, c'est mon entraîneur aujourd'hui dans la vallée. Et donc ce qui s'est passé, c'est que avec le Cambodge en 2019, on a pu participer au championnat du monde de trail. Donc la fédération d'athlètes était assez inexistante. C'est le comité olympique cambodgien qui a donné son accord pour que je puisse gérer, inscrire et organiser tout ça. Donc ça a été une très très belle expérience où on était 5 franco-cambodgiens à participer à ces mondiaux au Portugal. Donc ensuite, c'était il y a un an, la fédération d'athlètes s'est un peu structurée, un nouveau président a été élu, et ça fait partie de ces jeunes générations de Cambodgiens qui sont partis étudier beaucoup aux États-Unis et qui reviennent au pays avec beaucoup d'ambition et d'envie de développer ce pays qui est un pays très pauvre où il y a encore un peu de corruption, donc c'est pas toujours simple, mais c'est un jeune président avec plein de bonnes intentions, et il m'a contacté parce qu'il avait entendu parler de moi, et il m'a demandé de devenir la conseillère du trail au sein de la fédération pour essayer de développer l'activité, de détecter des jeunes athlètes. Donc j'ai accepté avec grand plaisir, et on essaye de travailler ensemble. Il y a de plus en plus de courses qui sont organisées au Cambodge, donc c'est super. Et on a participé au championnat du monde, donc au mois de novembre, là en Thaïlande, où on a agrandi l'équipe. Et là, on n'était plus que des franco-cambodgiens, entre guillemets, mais il y avait 2 cambodgiens, un garçon et une fille qui venaient du Cambodge. Il y avait un coureur aussi cambodgien, mais qui vit aux États-Unis, qui a rejoint l'équipe aussi. Enfin voilà, on essaye de chercher un peu tous les athlètes qui peuvent représenter au mieux le pays. Et ça se développe petit à petit. Et il y a eu cette proposition de la Team Evadict dont tu parles. Donc c'était fin d'année 2021 où Thierry Breuil et donc le représentant de la marque Olivier Laboussole m'ont appelé pour me parler de ce projet. Donc j'ai l'impression que j'ai une bonne étoile qui fait que j'ai toujours des propositions hyper intéressantes qui arrivent. Donc représenter cette marque avec donc 9 autres femmes d'horizons différents, des plus jeunes, des plus âgées, dont je fais partie, des mamans, des professionnels, enfin voilà, une équipe de 10 filles qui représente un peu les femmes aujourd'hui.
Mais des profils très hétérogènes et des parcours de vie pas alinéaires.
Exactement, donc j'ai pas hésité un instant, quoi. C'était un contrat de 3 ans pour pouvoir nous accompagner le plus sereinement possible avec du matériel comme on veut. Enfin, c'est de l'aide sur les frais de déplacement. Enfin voilà, quelque chose qui se faisait pas encore pour les féminines, peut-être pour les toutes meilleures dans certaines marques, mais sincèrement, on est vraiment chouchoutés, quoi. Ils font des regroupements parfois qu'entre filles et parfois avec la famille pour que tout le monde apprenne à se connaître. C'est vraiment super.
Ils sont là quand t'es blessé aussi, ça compte. Énormément.
J'ai reçu un colis la semaine dernière et donc on en rigolait parce qu'il y avait parmi les affaires à l'intérieur du colis, il y avait une paire de baskets. Donc j'aurais dit la droite pour l'instant, je vais pas trop vous l'abîmer celle-là. Mais...
oui. Est-ce que vous avez des béquilles Evadict?
Ouais. Je vais les floquer, t'as raison. Non, on a un groupe WhatsApp où Philippe Propage, qui est le manager sportif de l'équipe, nous...
Une légende, Philippe Propage.
Ah ouais, il est super. Toutes les semaines, on sait qu'il va courir le week-end. Et puis, tu vois, ça fait 2 semaines où il y a quand même toujours un mot pour moi. Voilà, c'est les filles qui courent ce week-end et toujours une pensée pour Laurie. Enfin bon, ils sont tous super.
La moustache et le cœur, Philippe Propage.
Ah oui, c'est quelqu'un, il est super.
Laurie, on va passer maintenant au questionnaire de Proust. J'ai 3 questions à te poser. Est-ce que tu pourrais commencer par me dire une décision qui a changé ta vie à jamais? Alors, tu l'as peut-être déjà abordée dans nos échanges préliminaires, mais une parmi d'autres, mais est-ce qu'il y en a une dont tu aurais envie de parler là, spécifiquement maintenant?
Eh bien, en fait, oui, on en a déjà parlé, mais la seule décision que je trouve, c'est d'avoir pris les baskets et d'être partie courir un matin où j'arrivais pas à dormir, en fait. J'essaye de chercher d'autres décisions qui auraient pu changer ma vie, mais vraiment, c'est celle-là qui m'a sauvée. Donc, en fait, je n'en trouve pas d'autres, quoi. Juste.
C'est une très belle décision.
Ouais, ils m'ont dit ça un matin. Ah tiens, mets tes baskets. C'était des. C'était
un
des
matin, ça ne sert pas à rien, contrairement à ce que dit Jean-Jacques Goldman.
Hein, ah oui, oui, Jean-Jacques Goldman, très bon non, chanteur. Ouais, pour me faire taper sur les doigts par Evadict, mais c'était une paire d'Asics Nimbus. j'avais mis. Je m'en rappelle parce qu'elles étaient roses. J'avais acheté une paire de baskets roses. Je m'étais dit, tiens, c'est joli ça. Ouais.
Elles vont me faire courir vite. Laurie, deuxième question. Est-ce que tu choisirais de faire si tu avais des ressources illimitées?
Eh ben, ça n'arrivera jamais, hein, vu mon style de vie. Mais si j'avais des ressources illimitées, ce serait de passer ma vie à voyager et à découvrir un peu tout ce qui se passe sur notre planète. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'essayer de sauver notre planète et d'écologie. Donc, on va dire voyager à vélo.
Tirer en voilier.
Hein, voilà.
Vélo aussi, ouais.
En vélo et en voilier pour changer de continent. Ouais, certains continents, c'est plus pratique. Mais ouais. C'est voilà, tous mes voyages que j'ai pu faire grâce au sport, donc tennis de table et aussi course à pied, m'ont permis de me rendre compte de beaucoup de choses, que déjà on avait beaucoup de chance d'être français, d'être dans ce très beau pays, mais qu'il y avait beaucoup de belles choses dans les autres territoires. Et tu vois, quelque chose tout bête, mais mon fils rêvait d'aller au Cambodge depuis toujours. Et j'ai pu l'an dernier l'amener. C'était 2 semaines en février-mars, un peu avant les Jeux d'Asie du Sud-Est.
Tu as tenu parole parce que tu lui promets dans Au-delà
dans
du
le
temps.
Film, ouais.
Tu lui fais cette promesse. Ouais.
Encore, oh là là.
Mais non, mais je donne tellement envie aux gens d'aller le voir.
Ouais, non, c'est vrai. Je lui promets dans le film et en fait, on a réussi à le faire l'an dernier. Et c'était pas simple parce que c'était au départ pour faire les championnats nationaux d'athlètes du Cambodge, mais ils ont été décalés plusieurs fois. Et ça lui faisait louper un peu l'école. Alors j'avais vu avec ses maîtresses, qui heureusement sont des personnes très ouvertes, qui m'avaient dit « pas de souci, on sait que c'est pas pour les vacances que vous y allez ». Et le seul impératif, c'est qu'il puisse faire un peu de français et de maths que je vais vous envoyer. Et il nous fera un résumé, un exposé sur son voyage en rentrant. Donc, chose qu'il a fait, et ça s'est super bien passé, tellement bien qu'il l'a présenté à sa classe, mais à toutes les classes de l'école. Tu vois, donc. Moi, je l'ai vu en seulement 15 jours de voyage, comme ça, de découverte. Je l'ai vu grandir, en fait. Il s'est rendu compte de plein de choses. Alors, je l'avais prévenu, hein, que c'était un pays très pauvre. Et il a été quand même marqué par certaines choses. Il a vu deux jeunes filles qui avaient son âge, hein, qui avaient 10 ans, qui faisaient la manche. Donc, ça a été quand même pas facile pour lui, mais il s'est rendu compte de plein de choses. Et c'est ça qui est beau dans les voyages, c'est que souvent ça nous fait grandir dans plein de domaines. Donc ressources illimitées, je m'en vais.
Voyager le monde.
Je voyage, ouais.
Salut Briançon, même s'il fait beau toute l'année à Briançon.
Ouais, je reviendrai skier, mais non.
Dernière question pour toi, Laurie, de ce questionnaire de Proust. Le mot que tu aimes le plus? C'est la première fois que je pose cette question.
Eh ben, alors c'est pas facile, hein, d'en trouver un seul.
Non.
Mais pareil, je l'évoquais tout à l'heure, c'est le mot avancer, tout simplement. En plus, ça colle avec le conseiller du président de la fédération, dont je parlais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a des origines. Alors, il a tout plein d'origines. Il a des origines australiennes, ukrainiennes et allemandes. Et il vit au Cambodge depuis des années, depuis plus de 26 ans, puisqu'il était marié avec une Cambodgienne, et il est devenu le conseiller du président de la Fédération d'athlétisme. Et il me dit toujours, donc en anglais, « move forward ». Donc c'est vraiment, littéralement avancer. Il dit, lui, il a traversé des choses très difficiles au Cambodge. Il a perdu sa femme, qui était malade. Et il me dit, mais quoi qu'il se passe dans la vie, il faut toujours avancer. Donc c'est un mot que je me répète aussi en permanence. Mais comme je te disais tout à l'heure, j'adore rire. Ça m'aide aussi beaucoup à avancer, l'humour. Et toujours garder un peu de légèreté. Il se passe des choses pas toujours faciles, mais il faut essayer d'avancer. Il faut, quoi qu'il se fasse.
Moi, c'est pas move forward, c'est keep pushing. Tu vois, quand je suis en difficulté sur des courses, là, c'est beaucoup utilisé en Formule 1. Je pense que les pilotes, ils arrêtent pas de se dire ça. Là, enfin, en tout cas, les gens qui donnent les consignes,
pushing,
les écuries qui
going.
Donnent les consignes, keep pushing, keep pushing. Ouais, moi, c'est, je pense à ça.
Quand je galère
sur mon petit 10
km. Quand tu crampes sur une course, keep going, mais bon.
Tu pushes pas, ouais.
Ouais. tu t'étires d'abord, quoi. Hein. Ouais.
Merci beaucoup Laurie, je vais maintenant présenter la course qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc l'Ultra Trail d'Angkor, c'est une course qui plante son décor à Angkor, qui a été le centre politique du Cambodge de 802 à 1432, je suis certain que tu le savais. Je ne te demanderai pas
dans chacune
de ces années, mais je suis sûr que tu le savais. Sur 400 km², ce site exceptionnel est caractérisé par plusieurs gigantesques temples qui sont installés au milieu d'une végétation dense. 6 épreuves sont proposées pendant le week-end de l'Ultra Trail d'Angkor qui traverse Siam Reap, le plus grand monument de l'Asie du Sud-Est, et beaucoup d'autres sites prestigieux classés depuis 1992, tu le savais aussi, au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'initiative de Jean-Claude Le Cornec et de ses équipes, cet événement propose donc 6 distances, hein, 8 km, 16 km, 32, un marathon trail de 42 km, un 64 km et un ultra qui fait maintenant 100 km, je crois que c'était 128 précédemment.
Exactement.
Le Jungle Trail d'Angkor, qui est long de 32 km pour 180 mètres de D+, va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui. Et ce cours, tu vas nous le dire, sur piste, à travers des rizières et plus généralement d'une nature cambodgienne de toute beauté. Sans oublier la traversée d'une multitude de petits villages avec en toile de fond les célèbres temples d'Angkor. Ça fait rêver, j'ai envie d'y être, là j'ai un peu été pendant ces quelques phrases. Le départ est donné en amont des temples d'Angkor à Phnom Bok et rejoint ensuite le site archéologique d'Angkor. Des points de ravitaillement sont disposés globalement tous les 5 km. Et dernière petite info sur la course, la barrière horaire pour venir à bout de ces 32 km est de 6 heures, soit une moyenne de 5,33 km/h. Ouais. Je sais que tu as fait le calcul là aussi.
Oui, voilà. Je le savais.
Je pense avoir planté le décor, mais tu vas évidemment étayer tout ce que je viens de dire.
Oui,
Laurie, c'est le moment délicat de l'épisode. C'est la question qui pique. Alors, j'ai imaginé un nouveau concept pour cette question qui pique, spécialement pour toi aujourd'hui et puis pour la course qui va nous intéresser. Donc, c'est l'Ultra Trail d'Angkor, on en a parlé. C'est souvent n'importe quoi. Là, je ne sais pas si je suis très fier de moi. Tu connais le jeu Stop ou Encore, en tout cas la logique.
Stop ou Encore ?
Ouais. En gros, tu franchis des paliers, puis tu peux décider d'arrêter et puis de partir avec ce que tu as accumulé, ou tu dis encore, mais tu risques de tout perdre.
Oui, la radio, souviens-moi ça. Donc,
exactement,
je te vois venir avec
c'est...
Encore, je
ouais,
te dis.
Encore, encore, okay. Exactement. Ouais. Ça s'écrit pas pareil, mais ça se prononce à peu près pareil. Donc voilà ce que je tirais le fil. Donc en gros, je vais mettre en jeu à chaque fois un palier, un peu fictif, hein, on va quand même se le dire. Et à toi de me dire si tu veux continuer ou pas à chaque fois. Et tu t'arrêteras au titre qui te convient le mieux. Donc, je te pose une question. C'est un vrai-faux. Tu me dis vrai ou faux. Et si tu as la bonne réponse, tu as la possibilité de dire stop ou encore. Voilà. Donc là, en jeu, pour le palier numéro 1, c'est le titre de lauréate du 10 km du Trail du Tripou. Alors, pour glaner ce titre, il faudrait que tu répondes à cette question. Donc là, il n'y a pas le choix, c'est la première. Donc, tu ne peux pas dire stop, sinon ça n'a plus aucun intérêt. Le Cambodge figure parmi les plus gros producteurs de riz au monde. Vrai ou faux ?
Vrai.
Bravo. 10e producteur mondial en 2020.
Laurie,
stop ou encore ?
Encore.
Oui, j'imagine.
Oui, j'ai encore, pas le choix.
Tu pourrais dire stop, mais amusons-nous. Là, c'est pour devenir lauréate du célèbre Maratrail de Briançon, mondialement connu. J'ai donc une question pour toi. La célèbre Grande Muraille du Cambodge est la destination touristique la plus populaire du Cambodge. Vrai ou faux ?
Angkor Wat. Ah, de quoi ? T'as dit quoi ? La muraille ?
La célèbre Grande Muraille du Cambodge.
Ouais, d'accord. Ouais. Donc faux.
Oui, effectivement, c'était bien en Chine, tu l'as deviné par toi-même. Laurie, stop ou encore ?
Encore.
Alors là, tu pourrais devenir la lauréate de la redoutable course à étapes en autonomie du Gévaudan. Attention, ça donne envie.
Okay.
Le Cambodge possède le seul drapeau et écusson au monde sur lequel se trouve un bâtiment historique, qui est Angkor Wat, pour le citer.
Moi, je dis faux.
J'ai pas bien entendu.
J'ai dit vrai.
Tu as dit vrai, bravo, félicitations.
Oui, merci. Laurie.
tu passes au niveau d'après si
tu le
souhaites.
C'est Jean-Luc Rashman, quoi.
Exactement.
ouais, d'accord.
Tu savais pas, tu pensais faire un podcast de course à pied, mais pas du tout. Okay. Dernière question. Donc là, je considère du principe que tu as dit encore,
parce qu'on va pas
s'arrêter là. La langue cambodgienne compte le plus grand nombre de lettres dans son alphabet au monde.
Je dis vrai ?
Absolument. 72 lettres. C'est le Khmer, c'est ça, je pense, la langue du Cambodge.
Ouais.
Voilà, il y en a 72, dont 32 sont des voyelles. Je ne le savais pas.
D'accord.
Elles ne sont pas toutes utilisées, en tout cas, aujourd'hui.
Je savais, mais j'étais plus très sûre. Donc,
Franchement, Laurie, bravo, tu as brillé. Encore heureux, serais-je tenté de dire.
Ouais, très bien.
Non, c'était pas facile. Je sais pas si je vais refaire ce stop ou encore, en tout cas, à moins qu'il y ait d'autres.
C'est sympa.
C'est sympa. Ouais. Ok, bah, je te préparais. Donc, je t'envoie ton petit diplôme, en tout cas, puisque tu as atteint le niveau 4. Tu étais le futur champion du monde de trail 2024 à Kiliana, en Espagne. Voilà, c'était ça qui était en jeu sur cette quatrième question.
Ouais, je vais gagner des courses, du coup. Ça fait plaisir. Bah, ouais.
Tu vas les enfiler comme des perles. Laurie, on va parler maintenant de ta course plus sérieusement. On a parlé de ta rencontre avec Ludo. Tu as dit que tout à l'heure que c'était Ludovic Collet, que c'était un tournant majeur de ta vie. A émané de tout ça une idée qui a été d'aller courir au Cambodge, donc d'aller courir ta première course au Cambodge, qui est un pays où tu n'étais pas allé, en dépit du fait que ce soit tes origines. Tu n'avais jamais eu l'occasion d'y aller. Qu'est-ce qui a fait que ça a été... le bon moment? Est-ce que c'était plus des considérations logistiques qui t'avaient empêché de le faire plus tôt? Est-ce que c'était ce projet-là qui, d'un seul coup, prenait tout son sens à ce moment-là de ta vie?
Et ben, en fait, j'étais même pas au courant, moi, qu'il y avait une course au Cambodge. Donc, à cette époque-là, on était en mai 2016 quand je rencontre Ludo. Et c'est lui qui me dit qu'au mois de janvier donc 2017, il y a cette course au Cambodge dans les temples d'Angkor, organisée par des Français. Et donc, c'est à l'époque la deuxième édition. Donc, c'est quand même assez nouveau. Donc, voilà, il en avait entendu parler grâce à Antoine Guillon, qui était le parrain de cette course. Cette année-là, il a été parrain plusieurs fois.
Une autre légende.
Ah ouais, ah ouais. Et je me dis, waouh, punaise, du trail, découvrir le Cambodge, en fait, que... Voilà, qui était un pays que j'avais toujours pas visité parce que j'attendais, comme tu disais, le bon moment. Je voulais y aller en famille, je voulais prendre le temps d'aller découvrir ce pays. Et puis finalement, cette course, je me dis, c'est ça quoi. C'était ça le moment qu'il fallait. Donc au niveau du boulot, je m'organise. Et encore une fois, pour la petite anecdote, que le hasard n'existe pas, c'est que à cette époque-là, Ludo, il était censé animer une Coupe du Monde de ski. Et il m'avait dit « je suis pas sûre de pouvoir me libérer ». Donc au début, je me dis « ah, je sais pas, est-ce que du coup j'y vais quand même ?» Toute seule, ça a peut-être moins de saveur qu'accompagnée. Et puis finalement, deux semaines avant, il manque de neige et la Coupe du Monde est annulée. Et il me dit, en fait, c'est bon.
La bonne étoile de Laurie a encore frappé.
Tu te dis, non, mais franchement, hein, tu te dis parfois, c'est. Donc, on y va. Donc, nous voilà partis sur destination Cambodge. Donc, tu arrives, tu descends de l'avion, tu prends un tuk-tuk. Tu vois, c'est hyper dépaysant. Et puis, je pense énormément à mon père. Je pense à ma fille parce que je me dis, s'il n'y avait pas eu Sarah, je ne me serais pas mise à courir et je ne serais pas là pour aller courir. Donc, à tout plein de choses. Et les jours qui précèdent la course sont déjà vraiment très riches en émotions. C'est partout où on visite, je ressens beaucoup d'énergie. C'est un peuple très souriant, très accueillant. Ils n'ont pas grand-chose, mais ils sont prêts à tout donner. C'est quand même quelque chose de fantastique ce qui se passe à ce moment-là. Donc,
c'est quoi la chose qui t'a plus étonné sur place? Est-ce qu'il y a vraiment une source d'étonnement particulière par rapport à l'idée? J'imagine que tu te faisais des tonnes d'images, tu avais des tonnes d'images en tête. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné? Est-ce que ça a été justement ce que tu viens d'évoquer, l'accueil que tu as reçu, dont tu ne soupçonnais pas la générosité? Est-ce que ça a été d'autres choses?
Ouais, en fait... il y a cette gentillesse, ouais, malheureusement cette pauvreté aussi, parce qu'on est vraiment dans les pays les plus pauvres au monde. Et puis après, c'est tout bête, mais ça reste mes origines, donc des traits physiques qui me font dire que c'est mon peuple aussi, quoi. C'est parfois, c'est délicat d'avoir plusieurs origines, parce que des gens comprennent pas forcément et vont te dire, quand on parle des sportifs qui changent parfois de nationalité, il faut choisir, on est soit ça, soit ça. En fait, non, moi je suis 50% français, 50% cambodgienne, hein, si on prend génétiquement ma constitution. Donc c'était certaines personnes, en fait, tu vois, un truc tout bête, j'avais été chez le coiffeur et la coiffeuse me dit, ah, mais. C'est marrant, t'es jolie, tu ressembles, machin. Et je lui explique que j'ai des origines françaises et cambodgiennes, et elle rigole, elle me dit, ah, alors t'es ma sœur. Enfin, voilà, c'est... ouais, c'était ces petits moments qui m'ont marqué, quoi.
Comme c'est ta sœur, tu l'as demandé un petit tarif familial pour la coupe.
Et alors, tu rigoles, mais quand tu es chez le coiffeur, tu as deux tarifs. Tu as le tarif Khmer, pour les Khmers, et le tarif pour les étrangers. Mais c'est écrit. Tu as foreign, 3$, et Khmer, 2$. Et c'est pas des conneries.
Ok. Ah ouais, au moins ils le mettent en avant, ça se du décide coup, pas sous le manteau.
Du coup, j'ai payé 2,50. Voilà.
La reine de la négo.
Ouais, non,
Laurie, si on revient à des considérations sportives, c'est quoi tes objectifs sur cette course-là? C'est tout simplement de profiter ou est-ce qu'il y a un enjeu quand même d'aller essayer de chercher un résultat satisfaisant?
Alors, c'était complètement de profiter et c'était les consignes du coach hein, à l'époque. C'était déjà, il fait très chaud au Cambodge, très humide et très chaud. Donc, si tu pars trop vite, tu suffoques et t'exploses. Donc, c'était faire attention à pas partir trop vite, profiter de ces moments, de courir sur des terres qui étaient très symboliques parce que, voilà, mon père avait tenté de s'enfuir en courant et moi je me retrouvais sur ces terres-là pour courir, donc voilà, l'émotion en fait, j'avais quand même le cœur qui battait fort et c'était pas que je cours vite et que j'explose quoi, sinon ça allait être un mauvais souvenir, donc c'était profiter, au départ c'était ça et c'est ce qui s'est passé dès le début de la course. Alors je sais pas si on peut rentrer déjà dans le début de la course.
Pas tout à fait tout de suite, mais dans pas très
tout
longtemps.
Tout à fait, d'accord.
On touche au but, ouais. Alors, on n'est pas encore sur la ligne de départ, mais
on part sur l'objectif de profiter. Voilà.
L'avant-course, Laurie, c'est des moments que tu vis généralement avec stress ou avec relâchement, avec impatience. Et dans quel état d'esprit tu es de manière générale sur une ligne de départ?
Alors oui,
parce que ça dépend de l'épreuve en soi.
Ouais, non, globalement, c'est quand même détendu, parce que j'ai déjà vécu... un sport où il y avait beaucoup de stress, donc voilà, je me dis, et c'est ce qu'il faut qu'on se dise tous, hein, ça reste du sport, donc éviter de se mettre la pression et surtout la mauvaise pression qui fait qu'on perd de l'énergie pour rien. Donc non, je pars pas trop stressée, plutôt avec beaucoup de hâte, et en fait pour y aller du coup de l'hôtel au temple d'Angkor, on prend un tuk-tuk avec Ludo. Le tuk-tuk qui nous accompagne depuis qu'on est descendu de l'avion, donc voilà, c'est assez rigolo parce que je me dis aller faire une course en tuk-tuk, c'est pas fréquent.
Par contre, voilà. Au ravitaillement, tu prends des tuk-tuk peut-être.
Des tuk-tuk au ravitaillement, joli.
Écoute, ça vient du cœur.
Ouais.
On voit aussi un moment dans le film d'ailleurs où tu manges un tuk, pardon, je spoil encore.
Oui,
mais ça c'était à La Réunion, je crois.
Ouais.
Laurie, tu t'en es pas rendu compte, mais on est le 21 janvier 2017, il est 6h du matin, et le départ du Jungle Trail encore est imminent.
Oui.
Tu as quelques secondes là pour te faire nos yeux et nous plonger dans le décor qui t'entoure. Alors voilà, fais-nous rêver sur cette ligne de départ. Est-ce que tu vois autour de toi à ce moment-là?
Alors, on est sur la ligne de départ, donc on est parti de... En fait, on s'est tous retrouvés sur la terrasse des éléphants, c'est l'endroit de l'arrivée et du départ de certaines courses, mais nous on prend le départ à un autre endroit. Il y a quand même un peu de monde, beaucoup d'étrangers, des Asiatiques et des Européens, beaucoup d'émotions, donc il fait chaud, il est très tôt le matin parce que les courses sont obligées de partir assez tôt au Cambodge. J'ai le cœur qui bat, mais beaucoup d'impatience d'entendre le décompte pour enfin profiter et faire ce que je sais faire, courir.
Tu nous l'as dit, donc la stratégie était assez claire. Faut partir tranquillement pour pas se griller. Tu pars en compagnie notamment d'une autre Française, Virginie, c'est ça? Est-ce que tu peux nous raconter un peu le début de course, le terrain sur lequel vous êtes amené à évoluer ensemble, notamment?
Ouais. Exactement. Alors on part sur un petit bout de route avant de retrouver des chemins avec de la terre. Et on est quelques garçons et donc une autre fille, Virginie, avec qui rapidement je me mets à discuter, donc qui aime beaucoup courir un peu partout dans le monde aussi, voyager, faire des raids, tout ça. Donc on va partager 20 km ensemble. Donc les deux tiers de la course. Et voilà, c'est avec elle notamment les rizières, les chemins de palmiers, la route, voilà. Le
pas simple les rizières d'ailleurs comme terrain.
Pas simple, non, parce que voilà, c'était un petit bout de terre. Si tu mettais le pied à côté, d'ailleurs, à un moment donné, on s'est mis les pieds dans la rizière, donc on avait les pieds trempés. Mais bon, on les avait de toute façon parce qu'il faisait très chaud et qu'on s'arrosait beaucoup sur les ravitaux. Donc voilà, mais Virginie qui a un métier pas simple, qui travaille dans la brigade des mineurs en fait. J'ai souvenir qu'on a énormément papoté. Très bonne nageuse au départ, d'ailleurs.
Dans la rizière.
Du coup, oui, elle aurait pu, facilement prendre, me mettre un petit peu de
swimrun
à ce moment-là, mais. Donc, un grand bout de chemin ensemble, jusqu'au moment.
Tu arrives à profiter du décor? Tu t'en mets plein les yeux ou tu es dans l'effort et dans la discussion ou est-ce que tu dis là chaque seconde je prends?
Ben, c'est vraiment ça, et en fait, je m'en rends compte sur les photos, après coup, que j'ai tout le temps la banane, comme tu disais. J'ai vraiment, le sourire, c'était. J'ai pensé à tout plein de choses, comme je disais, de mon père qui avait couru ici, moi je suis là, c'est un pays que je connaissais pas. Dans les villages qu'on traverse, les enfants qui tendent les mains pour qu'on, on leur tape dans la main, qui crient, qui rigolent. C'était les soldats du gouvernement qui faisaient un peu aussi les intersections pour nous donner les indications. Alors j'ai une petite anecdote, c'est qu'à un moment donné, il y en a un, il m'indique à gauche alors que c'était à droite. Après, il m'appelle, il me dit mais non, c'est là et il rigole. Enfin voilà, c'était, c'était tout plein de choses.
Très joueur.
Ouais. Oui,
c'était. Ils savent plaisanter dans la police cambodgienne. Ouais.
Donc je suis là, je profite vraiment de chaque instant. Et
tu arrives ensuite au kilomètre 20.
Ouais.
C'est ça, vous êtes en gros 3 ou 4e et c'est le moment où Virginie est un peu moins bien.
Voilà, Virginie parle un petit peu moins et on voit en fait la deuxième, pas très loin. Elle me dit oh, t'es bien, vas-y. Et je lui dis, texto, non, mais c'est pas grave. Je lui dis, tu vas te refaire la cerise, on va y aller. Et en fait, je lui dis même, on va essayer de la rattraper ensemble, tu vois. Et puis elle me dit, non, vraiment, moi, je vais m'arrêter un peu au ravito, donc vas-y. Donc là, je me dis, ah oui, j'ai pas forcément envie de m'arrêter. Donc je dis, bon, ok. Donc voilà, je quitte Virginie.
Et pour, tu fonds sur la deuxième.
Ouais, pour partir en chasse de la deuxième. Alors, de mémoire, c'est une Hollandaise.
Et tu la rattrapes au kilomètre 22.
Ouais, je la rattrape assez
sensiblement.
Rapidement. Ouais. Et pareil, je pense qu'elle avait un coup de chaud, puisque elle finira quand même pas mal de temps derrière à la fin.
C'est à ce moment-là que tu vas retrouver l'ancienne copine de l'équipe de France de ping-pong. C'est une retrouvaille qui a été totalement surprise pour toi.
Voilà. Alors en fait, donc c'est Carole, une joueuse de l'équipe de France, qui a été une très très grande joueuse française de tennis de table, qui faisait à cette époque-là un tour du monde en 2016-2017 et qui savait que je courais au Cambodge puisque je lui avais dit et qui m'avait dit qu'elle essaierait de passer. Voilà, elle m'avait dit écoute, on est en Asie en ce moment, tu cours quel jour, tout ça, on essaiera de passer. Mais bon, je m'étais dit elle aura sûrement d'autres choses à faire. Et en fait, sur le parcours, elle est là avec une copine, à vélo, mais elle avait posé le vélo pour courir quelques mètres avec moi. Et voilà, je la croise là, je me dis, c'est dingue, quoi. me retrouver là, c'est dingue.
Tu allais dire, encore toi ?
Ouais, on avait passé des années sur le banc ensemble à jouer au ping-pong. On a joué en double ensemble, on s'est entraîné des années ensemble. Et là, elle est en train de courir à côté de moi au Cambodge, donc... presque, je me demande si je suis pas en train de rêver. Et elle m'encourage, mais elle me gueule dessus. J'avais l'habitude, en général, qu'elle me parlait de coups droits et de revers, mais là, elle me dit, allez, c'est bien, avance, tout ça, machin. Donc encore une fois, j'ai le sourire.
Ça t'a porté.
Ouais, sur les photos, parce que j'ai Carole qui court un peu à côté de moi.
Est-ce que tu évolues à proximité des temples ? C'est un cadre, j'imagine, qui doit être très très plaisant, quasi cinématographique presque.
Et oui, puisqu'il y a eu un Tomb Raider avec Lara Croft qui a été tourné dans les temples d'Angkor. Ah, tu savais pas ça ? Ça, tu savais
non.
Pas ?
Non.
Je t'apprends des choses.
Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu ce film. J'ai un peu joué aux jeux vidéo en étant ado, mais j'ai... Ouais.
Donc on passe effectivement près de certains temples, et tout près et à travers certains, on peut dire même, qui sont alors un petit peu en ruine, hein, parce que c'est, voilà, ils sont, beaucoup sont en reconstruction, mais tu vois des racines qui traversent un peu, qui se mélangent. Enfin voilà, c'est un décor assez, comme tu dis, de cinéma, surréaliste, et très apaisant, puisque t'as peu de circulation, donc... Voilà, je me retrouve à courir là.
Et puis tu vas prendre la première place.
Voilà, j'allais dire, justement, c'est ça. On a des ravitaux à peu près tous les 5 km. C'est bien fait parce qu'il fait très chaud. Donc ça tombe très bien. Et je vois au ravitaux du 25e, la première, qui buvait tranquillement son petit verre d'eau.
Quelle erreur.
Oui, je vais la déranger un petit peu parce que je vais attraper une bouteille à la volée. Et là, ouais, il reste une longue ligne droite et puis après quelques petits bouts de route et de chemin, de virage pour arriver.
Environ 5 km à peu près, c'est ça?
Exactement. Je prends vraiment, c'est comme ça, quoi, la bouteille d'eau à la volée. Et là, je me dis, bon, le truc, c'est d'essayer d'allonger la foulée, de ne pas se retourner et si possible qu'elle ne revienne pas. Donc
là, il y a un petit pivot quand même dans ton état d'esprit. Là, ça devient autre chose. C'était valable pour ça, mais maintenant que ça tend les bras.
Ouais. Exactement. Je me dis, bon, là, c'est un signe. Si je peux gagner, c'est quand même quelque chose, quoi. Ouais. Donc, j'ai un petit basculement.
Tu la mets à distance autant que possible.
Ouais, comme je peux. Et je retrouve Carole à 1 km de l'arrivée, qui en fait était là.
Avec son mégaphone, ses fumigènes, tout ça.
En tout cas, elle me voit, elle me dit « Oh putain, mais t'es première !» Et j'ai dit « Oui, je sais. Je sais, il faut finir encore. » Et du coup, on finit la course. Donc, ouais, la deuxième... voilà quoi, ne revient pas, donc ouais,
tu vois la victorieuse.
Voilà, une grande allée avec des drapeaux et l'arche encore trail, ouais, qui fait beaucoup de bien.
Tu franchis la ligne donc d'arrivée au bout de 2h56 de course, donc à la première place. J'imagine que tu es prise par une multitude d'émotions. C'est tes premières pensées, elles vont vers qui, vers quoi, qu'est-ce que tu ressens juste au moment de franchir cette ligne?
Eh ben, alors déjà, avant d'arriver, c'est ce que je raconte, je pense forcément à un moment donné à ma fille, quand je te dis que je veux essayer d'allonger la foulée, en fait, je me dis dans ma tête, imagine qu'elle est là et qu'elle te tire, et en fait, je pense énormément à elle sur la fin de la course, les moments en fait vraiment difficiles où voilà, j'ai envie de tout donner le maximum, je pense beaucoup à elle, et une fois que la ligne est passée, je pense à mon père. Et si bien que je lui envoie un texto alors qu'il est à peu près 10h du mat au Cambodge et que donc tu as 6h de décalage, il est 4h du mat en France. Et je lui envoie juste un petit texto en disant « Coucou papa, j'ai gagné la course au Cambodge, je suis trop contente, bisous ». Et là, il m'a répondu tac au tac « Bravo ma chérie ». Donc, il dormait pas. J'apprends par la suite qu'il avait dit à ma mère « Oh, j'aurais dû y aller avec elle ». En gros, elle ne connaît pas, c'est mon pays, quoi, tu vois. Donc, en fait, voilà, bon, comme d'habitude.
C'est le type de mot qu'il n'avait jamais formulé pour toi, à ton égard aussi, cette forme de reconnaissance et puis cette envie d'un projet commun. Il l'avait pas tellement formulé précédemment?
Oui, c'était pas quelqu'un de très expressif. Donc, le terme « ma chérie », je l'avais déjà entendu, mais je pouvais les compter sur les doigts d'une main. Donc, oui.
Il parlait des chocolats, ça... probablement, mon chéri. Non.
Ouais, peut-être. Donc, oui, c'était voilà, les termes utilisés, puis le fait qu'il soit réveillé et que, en fait, notre relation va basculer à partir de ce voyage-là, on va dire. Et pour encore aujourd'hui être... différente de ce qu'elle était avant, on a une relation beaucoup plus proche, beaucoup plus apaisée, je sais pas, avec beaucoup plus d'amour, je pense.
Il y a une rencontre qui va être majeure et décisive pour toi aussi à l'issue de cette course. C'est le point d'un autre départ d'un projet qui va durer 2 ans et demi et dont tu racontes l'histoire pendant. Enfin, c'est le sujet aussi au-delà du temps. Est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre à l'issue de la course?
Alors en fait, une fois la ligne passée, Ludo est là et Jean-Claude Le Cornac aussi, l'organisateur. Et puis un journaliste français, mais qui vit au Cambodge depuis de nombreuses années, qui s'appelle Yann Defond, m'interviewe et donc comprend que voilà, j'ai des origines cambodgiennes et que je cours correctement. Et c'est lui qui me met l'idée de me mettre en relation avec le comité olympique cambodgien, qui en fait cherche des athlètes, puisque c'est quand même un pays qui s'est relevé de la guerre il n'y a pas si longtemps. Donc le sport, voilà, ça met du temps à se mettre en place, et il commence à faire appel aussi à des athlètes, on va dire, au-delà des frontières. Donc il me fait voilà, rentrer en connexion avec le secrétaire du comité olympique, qui s'appelle Vat Chamron, qui a été le premier sportif à faire les Jeux. Donc c'était en lutte, et c'était, je me demande si c'était pas Atlanta. Oh, j'ai pas mes fiches. Mais voilà, c'était le premier sportif cambodgien sur des Jeux. Donc c'est quand même quelque chose de significatif. Et je le rencontre, en fait, donc là, à ce moment-là, je le rencontre furtivement, sur la remise de récompense, tout ça. Mais on rentre en contact par mail, et il me propose de revenir au mois de juin, donc 2017, avec mon père, pour nous rencontrer. Il y a le 10 km et le semi-marathon de Phnom Penh à ce moment-là. Et que, en gros, je comprends que selon le résultat, il me rencontrera ou pas le lendemain. Donc, ça met un peu la pression, quoi. Donc, je m'inscris sur le 10 km et je termine deuxième féminine derrière une américaine. Mais largement devant quelques cambodgiennes. Du coup, à la fin de la course, il me serre la main. Il me dit bravo, il a aimé voilà, ma façon de courir, enfin sur l'arrivée, hein, il m'a vu passer la ligne d'arrivée, et il me dit je veux bien te rencontrer demain à 10h au bureau. Il me dit bon, heureusement quoi, heureusement ça le fait, je suis pas venue pour rien quoi. Du coup je le rencontre le lendemain avec mon père et Yann, ce fameux journaliste, qui en fait parle couramment le khmer, donc mon père parle aussi, moi je parle seulement quelques mots, donc... voilà, j'ai besoin d'être accompagnée, et on discute, et c'est là qu'il me dit écoute, si tu fais des bonnes performances, plutôt sur longue distance, parce qu'on a quand même pas d'athlètes sur les longues distances, donc sur marathon, pourquoi pas participer aux prochains Jeux Olympiques. Il me dit ça comme ça, texto.
Il y a une contrainte qui est de battre le record de Narili, c'est ça?
Alors, il me parle du record de Narili, parce qu'effectivement... en fait, au départ, je me dis que c'est un record qu'il faut absolument atteindre, mais en fait, je comprends que pour les Jeux Olympiques, comme il n'y a aucun athlète cambodgien qui fait les minima, ils ont la possibilité d'inscrire deux athlètes. Qu'il n'y a pas on va dire, l'obligation de faire un record, mais c'est quand même soumis à validation du CIO pour ne pas envoyer n'importe qui. Donc, il faut que la performance soit quand même voilà, assez... Enfin, elle soit un minimum.
Le record de Narili, pour le préciser, c'est 2h59.
2h59, aussi. Ouais, sur marathon. Donc voilà, il me met ça en tête.
Ton temps de référence étant en 3h35, je crois.
Et moi, j'avais fait 3h35, ouais. Et on va dire que voilà, avec le tennis de table, c'est quand même pas l'endurance comme ça, ce que j'ai travaillé le plus dans ma vie. Donc, mais bon, comme voilà, je le dis depuis le début, je me dis, bah. Ouais, on va essayer, on va être déterminé, on va essayer d'avancer, et puis on va voir ce que ça donne. Donc de là, je rentre en France, et avec Ludo, on décide de se rapprocher d'un entraîneur spécifique route et marathon, justement, pour essayer d'atteindre ce défi.
J'ai envie de faire un petit coup bas, mais je pense qu'on va garder le suspense sur l'issue de cette épopée. Je ne sais pas ce que tu en penses. Parce que la réponse se trouve justement dans ton documentaire, donc c'est peut-être intéressant de laisser aussi la surprise aux auditeurs,
oui,
qui ont envie peut-être de creuser ton histoire, non ? Je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, oui,
et pour
oui.
Savoir comment s'est construit ce projet et ces 2 années et demie ensuite avec cet objectif de JO et de marathon.
On laisse les gens aller regarder le documentaire Au-delà du temps.
Le lien sera dans la présentation, je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, n'hésitez pas, vous allez passer une heure incroyable. Pour finir sur notamment ce film, au-delà de figer une partie de ton histoire à jamais, est-ce qu'il a eu aussi un rôle cathartique pour toi ?
Écoute, alors déjà tu utilises un terme un peu compliqué, cathartique. Celui-là, je n'utilise pas souvent.
Est-ce que ça t'a libéré ? Est-ce que ça, voilà, c'est ce que
ouais,
ça t'a.
Ça a vraiment été comme un médicament, j'ai envie de dire, encore une fois, comme la course à pied l'a été, mais faire ce film, c'est pas facile encore aujourd'hui, tu vois. Je l'ai beaucoup regardé, donc j'ai parfois du mal à le re-regarder si on doit faire des diffusions ou quoi, mais le fait de le mettre comme ça dans l'écran, d'en parler, et puis, comme je disais, mon père aussi a réussi à se livrer. Ça m'a fait du bien. Puis ça me permet de parler du Cambodge, de faire connaître mes origines. Je me suis rendu compte que plein de gens ont traversé aussi des moments difficiles. Et finalement, y a toujours moyen de se raccrocher à quelque chose et d'avancer. Donc ça a été plein de belles rencontres qui ont suivi, plein de beaux témoignages. De gens qui ont vu ce film et qui me disent que ça les aide à s'accrocher, à avancer suite à des mauvais moments qu'ils ont rencontrés. Donc, c'est encore quelque chose qui m'a aidé à passer un cap. Il y a même des gens qui voulaient une suite.
Au-delà du temps, fond du ski, le 2.
Voilà, ouais. c'est pas une comédie. Hein.
Non, pas vraiment.
Mais non, il n'y aura pas de 2.
Mais c'est très beau, oui. Très touchant. Laurie, on va parler un peu d'avenir maintenant. On approche de la fin de l'épisode. Ton année 2023, pour reboucler ce qu'on s'est dit il y a un peu plus d'une heure maintenant, elle a été très contrariée par cette blessure. Et donc, les plans ont changé, en tout cas d'un point de vue sportif, dans le sens athlète, puisque tu vas quand même pouvoir tu vas nous raconter un peu tes rendez-vous de l'année, mais tu pourras en tout cas y figurer quand même plutôt dans l'encadrement en tout cas. Et puis, il y a aussi 2024. Et Paris, l'échéance olympique, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment vont se dessiner les prochains mois et puis les grands rendez-vous, dans quel contexte tu y seras?
Les plans ont changé, mais quand même, sur 2023, je gagne le Snow Trail de Serge Chevalier. Donc, je suis quand même à 100% de victoire pour les auditeurs.
Invaincu en 2023.
Je ne peux me le raconter, mais quand même. Et, en fait, en disant ça, je me dis c'est pas vrai, parce que j'avais fait un cross la semaine d'avant. Et j'ai pas du tout gagné.
Sur la deuxième quinzaine de janvier 2023, tu es vaincu.
Sur on commence par le positif.
Ça en jette.
Toujours, Et puis, les plans ont changé. Il y a les Jeux d'Asie du Sud-Est au mois de mai qui se déroulent au Cambodge, où j'ai déjà participé en fait sur 5000 mètres sur cette compétition. Donc, déjà, ça, il n'y aura pas. Donc je suis vraiment déçue de ne pas pouvoir faire 12 tours et demi de piste, parce que c'est quand même un effort sympa, complètement fou. Non, mais bon, ce sera pour une prochaine. Les mondiaux de trail au mois de juin en Autriche, où j'irai comme coach, avec le coach, on a quand même une dizaine d'athlètes qui participent soit à la course de montagne, soit au trail court. On s'est pas mis sur trail long ce coup-ci parce que le haut niveau international est vraiment très très élevé, donc c'est difficile d'aller courir avec eux. Donc sur la course de montagne et le trail court, on ira défendre nos chances avec le maillot cambodgien. Et j'étais inscrite sur la CCC aussi au mois d'août, donc à mon avis, je serai plutôt sur le stand Evadict à faire la promotion de jolies baskets, mais ce sera trop tôt pour reprendre. Mais c'est quand même tous ces événements dont je parle que je vais louper, j'essaierai d'y être malgré tout pour en profiter si tout se passe bien. Et puis une fois que ce sera passé, moi je serai en train de reprendre à l'automne pour. Si je peux refaire une course quand même d'ici la fin de l'année, ce serait chouette pour reprendre un peu goût. Mais je me dis, c'est comme ça, ça m'est déjà arrivé, je sais que je suis revenue. Quand je vois la tête de mon quadriceps qui a perdu 10 cm presque, je pose quand même des questions. Mais non, je sais que ça va revenir, donc j'aurai encore plus envie et je sais que je profiterai encore plus. De la chance que j'ai de courir quand je pourrai.
Et Paris 2024 ?
Et Paris 2024, quand on
cette
est...
Cette petite course de quartier.
Ouais, exactement. On est toujours en lien avec la fédération pour ces deux places qu'on a en athlétisme pour Paris 2024. Donc, on a déjà eu l'occasion d'en parler. C'est vrai que nous, Je dis nous, avec l'étiquette de la conseillère à la Fédé, on essaye d'œuvrer pour trouver des jeunes athlètes qui ont le potentiel. Aujourd'hui, s'il n'y a pas forcément d'athlètes, pourquoi pas essayer de me présenter. Alors, on est plus parti sur le 5000 mètres, parce que c'est vrai qu'en marathon, même si vous verrez ce qui se passe dans le film, hein, t'as vu, je vous...
Ouais, joli.
Je me suis tournée sur le 5000 mètres depuis l'an dernier et on s'était dit que ce serait une discipline sur laquelle je pourrais éventuellement me présenter. Donc ça reste dans un coin de ma tête parce que voilà, si je reprends à l'automne et que on sait jamais, j'arrive à retrouver des très bonnes sensations et défendre ma place sur 5000 mètres, pourquoi pas y aller à Paris 2024. En France, les Jeux Olympiques, une compète que j'ai jamais pu faire quand j'étais en équipe de France de tennis de table, ce serait une belle boucle de boucler. Donc ça, on ne sait pas. On y pense.
L'avenir nous le dira.
On se dit pourquoi pas, ouais, et l'avenir nous le dira, exactement.
Laurie, j'ai une dernière question dans mon escarcelle pour toi. C'est un classique de ce podcast, c'est le motto de la fin. Est-ce que tu as une devise que tu aimerais partager avec nos auditeurs ?
Eh ben écoute, oui, et c'est une devise que j'aime bien et qui me caractérise un peu. Ce serait d'être sérieux sans se prendre au sérieux. Voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne. C'est quand je fais quelque chose, j'essaye de le faire le plus sérieusement possible, mais sans pour autant me prendre au sérieux parce que la vie est courte, que on ne sait jamais ce qui peut se passer, c'est vraiment important de s'amuser, et comme je disais tout à l'heure, la course à pied, ça doit rester un jeu, ça doit rester du plaisir, donc c'est comme ça un peu que je fonctionne, et puis le fait de donner du sourire, j'en reçois en retour. On dit souvent que la vie est un peu comme un miroir, donc ma devise.
Elle te va bien, elle te va comme un gant. Merci beaucoup Laurie, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre ce trail d'encore qui est un vibrant hommage rendu à ton père, à son histoire et aussi évidemment à ton histoire et qui t'a permis de te reconnecter à tes racines cambodgiennes. Je suis un adepte de l'audio comme tu peux l'imaginer, mais le format podcast ne m'en tiendra pas rigueur. J'en suis certain, je vous encourage tous, vous l'aurez compris dès maintenant, à vous plonger dans le film Au-delà du temps qui t'est consacré et qui raconte l'essentiel de ton histoire récente, depuis la perte de ta fille, en passant par les premiers pas au Cambodge, les championnats du monde de trail, jusqu'à l'issue de ton rêve olympique. Voilà, le film est disponible à l'adresse au-delà-du-temps.com. J'ajouterai donc le lien dans la description de cet épisode, je vous l'ai dit. Voilà, je peux que vous encourager en tout cas à plonger dans cette heure de documentaire qui va à coup sûr vous prendre au cœur, aux tripes et aux yeux. En tout cas, ça a été le cas pour moi, ça m'a retourné. Je dois vraiment te le dire, je ne suis pas le premier à te le dire parce que le film a été primé à plusieurs reprises. Donc ça on exprime la qualité, mais en tout cas, voilà, moi ça m'a pris aux tripes et ça m'a profondément touché. Mais voilà, je suis d'autant plus content qu'on ait pu partager en tout cas ton parcours de vie et échanger aujourd'hui. Ça a été un vrai plaisir pour moi. Profite bien de la fin des championnats du monde de ski. Là, je pense que pour le Super G, c'est peut-être loupé.
Ouais, c'est loupé.
Je ne sais pas trop si c'est fini ou pas.
Replay,
je ne sais pas si on a eu une médaille. Ouais. Plus sérieusement, je te souhaite d'être vite à nouveau sur pied et surtout bien sur pied. Pas forcément vite, mais en tout cas dans les meilleures dispositions pour te réaliser dans tous tes beaux objectifs, parce qu'il y en aura évidemment plein, j'en suis certain.
Ben, merci beaucoup. Et puis de toute façon, j'ai plein de podcasts à écouter, moi aussi, le temps de revenir. Donc...
je te conseille Course Épique si t'as l'occasion, très sympa.
Oui.
Enfin, j'espère. Merci pour tout Laurie, à très vite.
Merci Guillaume.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Épique, évidemment.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.